Bonjour à tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale des antennes de Principe Actif et de HDR. Ce matin, nous parlerons art, mais nous parlerons aussi transmission de ces notions artistiques, car cette émission n'est pas faite des studios aujourd'hui, elle est enregistrée hier, ouais merci pour le petit voyage dans le temps, elle est enregistrée hier à l'association du parc, et pour m'accompagner dans cette émission, j'aurai deux journalistes d'exception, à savoir Maïlis et Merola. Bonjour Maïlis, comment vas-tu ?
Bonjour, je vais très bien.
Bon, parfait, t'as bien préparé tes questions, juste les questions.
Oui.
Voilà, on est à peu près au point. Et juste à côté de toi, c'est Merola qui aura aussi bossé sur ces interviews. Ça va Merola ?
Oui, et toi ?
Eh bien merci, très bien. C'est plutôt sympa, on me demande à chaque fois si ça va bien. Merci beaucoup, ça va bien. Pour préparer cette émission, vous avez réalisé des micro-trottoirs que nous écouterons un petit peu plus tard lors de l'inauguration de l'exposition dont nous allons parler aujourd'hui justement. Et également, vous serez à la question. Du bon son, de la bonne humeur, des bons plans, notre chroniqueuse Sceaux que nous retrouvons durant cette émission, vous l'aurez compris, c'est la recette du pire reste à venir.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
J'ai connu l'échec, la débauche et la dèche. J'ai connu les remarques que l'on fait sur mon sexe. J'ai connu des types bien et des types qui agressent. Je connais pas l'injustice d'un délit, des faciès. J'ai appris des leçons de vie dans mes erreurs de jeunesse. Et j'en ferai encore, j'ai pas l'âge de la sagesse. Je cours après le bonheur, je prends de la vitesse. Vers la paix intérieure, c'est ça mon Everest. Anxiété m'appelle, j'ai peur de l'avenir. Peur des discours de haine faits avec le sourire. De la montée des extrêmes et celle des océans, de la nature humaine qui tue le vivant. Je sais pas si je veux des gosses, je sais pas si je serai une bonne mère. D'abord faudrait que je sache quel est mon rôle sur la terre. La mienne avait un boss qu'on appelle patriarcat. Elle a élevé 4 gosses, ramené un salaire chaque mois. J'aime parler féminisme avec une meute de mal alpha. Combien de filles vont courir et ne reviendront pas. Mes copines n'écoutent plus les rappeurs misogynes. Elles me disent à chaque fois, fais un feat avec Youssoupha.
Oh, à la vie qu'on mène, au grand rêve que l'on traîne et qui nous perdent gentiment, gentiment. Ah, à la vie qu'on mène. Et puis même si c'est la merde, il faut que je m'aime, sinon qui le fera plus que moi. Plus que moi. Qui le fera plus que moi. Plus que moi.
J'ai connu le minimum, maman n'avait pas le bras long. J'ai connu les hommes, j'ai pas connu mon daron. Mon enfance radieuse, belle comme un piano voix. J'ai connu des adieux qui à la base n'étaient qu'un au revoir. J'ai connu les maîtres de cérémonie dans les HLM. On était des alcooliques anonymes avant d'être célèbres. J'ai connu ceux qui m'ont aimé tant que j'avais des problèmes. Et j'ai connu ceux qui m'ont insulté pour que je progresse. Trop promesses. Y'avait pas beaucoup de saveurs, y'avait pas beaucoup de faveurs. Génération Sangoku, Mylène Farmer. Mes sœurs ne m'ont pas compris, génération désenchantée. Elles me voient en homme déconstruit, je suis encore un homme en chantier. Yeah. Et ouais ma sœur, t'es une resta. Ne cherche pas à devenir l'égal d'un homme, tu vaux mieux que ça. Mes copines disent que c'est le monde qui est misogyne. Et peut-être que ça suffira pas de faire un feat avec Youssoupha.
Ah, à la vie qu'on mène, au grand rêve que l'on traîne et qui nous perde gentiment, gentiment. Ah, à la vie qu'on mène. Et
plus, même si c'est la merde. Il faut que je m'aime, sinon tu le feras plus que moi. Plus que moi.
Ouais, salut le matinal.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, like t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bonjour, ce message est pour le répondeur des matinales sur principe actif. Alors, c'est les jardins de Liton recherchent des nouveaux adhérents à La Bonne Ville sur Iton. Pour venir jardiner, avoir une parcelle à vous, écouter le chant des petits oiseaux, discuter, partager, les jardins de Liton vous ouvrent leurs portes. Vous pouvez vous renseigner auprès de Marc Le Priol au 06 14 60 30 26. 06 14 60 30 26. Et merci encore aux répondeurs des matinales de Principe Actif. Et bonne journée à vous toutes et à vous tous.
Exposition, dessin, sculpture, photographie, Marie de Guingamp, Alfonso Fernandez et Nora Legac, le 4 et 5 avril de 10h à 18h à Francheville 2760, salle des associations, place Modeste Leroy.
Et pour attaquer cette émission, c'est Maïlis et Merola que nous retrouvons à la question. C'est Émile Orange, un artiste qui est en résidence sur le sud du département de l'Eure, que vous avez au micro. Maïlis, eh ben je te propose de commencer cette interview avec Émile. Bonjour Émile, hein, commençons par ça.
Bonjour.
C'est à toi, Maïlis.
Travaillez-vous tout seul ?
Alors, ça dépend, mais habituellement, ça m'arrive de travailler tout seul, notamment pour ma peinture. Mais là, ce qui m'amène dans la région, je le fais pas tout seul. Et j'en suis bien heureux parce que je travaille avec deux écoles primaires, celle des Baux-de-Breteuil et de Bémécourt. Et donc là, je suis un peu la petite main qui initie un peu les ateliers. Et après, je fais confiance à tous mes joyeux partenaires pour faire des belles choses.
Trop cool. Où est-ce que vous exposez vos œuvres ?
Alors, elles étaient à la médiathèque Le Kiosque. J'avais deux peintures et un grand tapis exposés là-bas pendant tout le mois de mars. Et habituellement, j'expose aussi de la peinture dans des galeries, dans des centres culturels, dans des médiathèques aussi, dans plein d'endroits différents.
Et pour vos œuvres, est-ce que vous les exposez autre part que la Normandie ? Par exemple, en Île-de-France ou je sais pas.
Ouais, ça m'arrive là de plus en plus et je suis content de ça parce que c'est difficile aussi de sortir un peu de sa région, d'avoir des contrats un peu ailleurs, de se faire repérer aussi dans d'autres régions. Mais ouais, de plus en plus là, je sors de Normandie et ça m'amène de temps en temps à Paris, un peu tout autour de la région. Je suis pas encore dans toute la France. J'espère pouvoir montrer mon travail un peu partout, mais ça met du temps. Et peut-être à l'international aussi un jour, peut-être. Qui sait ?
Et est-ce que vous arrivez à vivre de votre art ?
Et ouais, là je suis content, ça fait 2 ans maintenant que je suis indépendant, donc j'arrive à vraiment vivre uniquement de mes projets artistiques. Avant j'ai travaillé en tant que médiateur culturel dans un musée qui s'appelle le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, et après mes études j'ai dû travailler peut-être 4 ou 5 ans. Et en parallèle, je continuais toujours de produire mes œuvres dans mon atelier. Et au bout d'un moment, je me suis senti prêt et assez confiant et solide pour me lancer dans l'aventure d'être à 100% artiste-auteur. Et donc là, ouais, je vis que de mes projets. Donc surtout des projets que je fais avec des collectivités ou avec des centres d'art, des choses comme ça, ouais.
Vous avez des métiers à côté ?
Eh ben non, maintenant, je fais vraiment que ça. Donc je fais, j'ai mon atelier, donc c'est mon métier. Et après, être artiste, ça demande d'avoir beaucoup de casquettes différentes, donc de savoir faire pas mal de choses différentes. Mais j'ai mon atelier dans lequel je fais ma peinture, je fais mes différents projets, donc je crée des tapis aussi. Voilà, je fais tout ce qui est nécessaire pour continuer à faire tous mes projets. Mais j'ai pas besoin de travailler ailleurs pour gagner de l'argent. Donc ça, je suis content. C'est un soulagement aussi, mais voilà, c'est une autre pression aussi d'être indépendant. Mais je suis fier de ça en tout cas.
Ça fait combien de temps que vous êtes artiste ?
Alors, être artiste, à quel moment on peut savoir à quel moment on l'est pour soi, pour les autres ? C'est un peu compliqué. Je dirais qu'à déjà à 8 ans, je me considérais un peu comme artiste, mais parce que j'adorais ça. Et après, j'ai fait mes études, les études supérieures où j'étais aux Beaux-Arts. Donc, est-ce que là, on commence à être artiste ? Sûrement. Mais après, quand j'ai commencé à avoir mon statut d'artiste auteur, c'est peut-être à ce moment-là où la société peut dire que je suis artiste, et encore que. Mais on va dire que ça fait depuis la sortie des Beaux-Arts, donc en 2017, que je suis artiste, on va dire. Ouais.
Sur quelle dimension vous travaillez ?
Dimension, est-ce que tu peux me
préciser ? Par exemple, sur les tableaux.
Ah, les tableaux, il y a plein de dimensions différentes, de formats, on parle de formats aussi. Je peins des petits formats là en ce moment sur bois, bois brut et tout, j'aime bien. Sinon, j'ai fait des grands formats, le plus grand, je pense que c'était 2 mètres sur 2. Ouais, en une toile, c'est 2 mètres sur 2. Sinon, habituellement, on va dire que je fais des tableaux d'un mètre 50 ou 1 mètre 20 sur 1 mètre, un truc comme ça, je pense.
Et sur tapisserie, c'est ça aussi en dimension, vous travaillez
ouais.
Comment
les tapis, c'est souvent mon format de prédilection, que j'apprécie le plus. C'est celui qui est adapté à mon cadre. Et du coup, c'est des tapis qui font 1m50 sur 1m50. C'est ce qui me permet de travailler assez librement avec plusieurs enfants, ou enfin un groupe assez conséquent sur un grand tissu. Et après, ça donne un tapis qui est aussi chouette à découvrir et sur lequel on peut vraiment s'asseoir et s'allonger. Pas trop petit ni trop grand.
Pour vous, que représente le dessin ?
Le dessin, c'est une zone un peu de liberté, hein, le dessin. On en parlera aussi peut-être tout à l'heure, mais le dessin, c'est une manière de s'exprimer autrement qu'avec des mots. Ça permet de sortir des choses aussi au fond de nous. Ça me permet de parler aux autres, de raconter des histoires, de m'amuser. Le dessin, c'est beaucoup de choses. C'est aussi un peu une sorte de méditation aussi. Moi, je l'ai très vite ressenti comme ça quand j'étais enfant. C'était ma petite bulle à moi où je me posais à un endroit, je dessinais. Et voilà, il me fallait peu d'autres choses.
Comment l'art vous êtes... Comment l'art s'est attaché à vous ?
Ah, il s'est attaché à moi d'une manière... C'est très poétique hein, comme question. Je pense que par transmission aussi, mes parents m'ont très vite soutenu dans mes démarches artistiques, dans mes envies d'expérimentation, en peinture, en dessin, dehors, dans la nature, à observer, tout ça. Je pense que c'est une sensibilité déjà... De s'ouvrir à l'art, mais tout le monde peut y accéder. Donc l'art, je pense qu'elle est un peu en nous. Suffit de lui laisser un peu de place. Donc voilà, je pense que je lui ai laissé beaucoup de place, et on m'a permis de laisser beaucoup de place à l'art aussi.
Et quelle était votre toute première œuvre ?
Ma toute première œuvre quand j'étais en maternelle.
Si vous avez le souvenir, hein, mais
que vous avez sûrement une empreinte de pied ou de main, un gribouillage sur un mur. Mais sinon, ma toute première œuvre en sortie d'études ou au Beaux-Arts, c'est compliqué, c'est intéressant. Je sais pas, ou celle dont je me souviens le plus. En peinture, je me souviens avoir commencé à peindre sur une toile tendue sur un châssis que j'avais fabriqué moi-même. Et je me suis amusé à peindre des surfaces lisses. Et, en fait, j'avais posé mon pinceau pour travailler sur une zone et j'avais passé une après-midi à peindre la même zone. Et à un moment, le prof était venu me dire « Mais tu sais, tu peux peindre ailleurs aussi. » Et en fait, j'avais été absorbé juste par la tension, le rebond de la toile, comment la matière s'étalait sur la toile et tout ça. Et c'est plus une sensation, ouais. De ma première peinture sur toile, c'était assez magique. Je me souviens avoir été un peu envoûté par ça. Mais je vais y réfléchir, je vais essayer de me souvenir de l'œuvre la plus ancienne. Peut-être, comment elle s'appelle, Mimi la petite souris en maternelle, ou il y a des choses comme ça qui restent. Ou l'éléphant avec tous ses carrés de couleurs. Elmer.
Je connais. Vous en avez fait combien des œuvres à peu près?
J'en ai fait combien? Waouh! Est-ce que en peinture, ça se compte en centaines maintenant? En tapis, là, depuis 4-5 ans, je pense que j'en ai bien fait une trentaine. Ouais, peut-être même plus, hein. Donc ça commence à faire. Et j'espère en faire encore des milliers.
Lorsque nous préparions cette émission, on s'est posé des questions sur les influences et on s'est dit Nouvelle-Calédonie, Paris, Québec, Prague, Cherbourg. Qu'est-ce qu'il y a de vos voyages dans vos œuvres?
Alors, la Nouvelle-Calédonie, j'y suis pas allé, mais c'était la Polynésie.
La Polynésie, pardon, ouais. La Polynésie. Ouais,
ouais. Non, pas de souci, j'espère pouvoir aller en Nouvelle-Calédonie aussi, ça doit être magnifique. Mais tout ce qui me reste de ces voyages, c'est la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de rencontres, de lumière, de...
Et on retrouve ça dans vos œuvres, justement. Enfin, il y a une influence du voyage dans les œuvres.
Ouais, bah surtout dans ma peinture, ouais, complètement. Je peins mon quotidien, enfin en tout cas les moments où je suis j'aime bien dire ça, en échappée, où je suis en voyage, donc où le quotidien est un peu bouleversé par de nouveau une nouveauté à chaque coin de rue. Et donc j'aime bien prendre des photos aussi de tous ces voyages, donc il y a beaucoup d'images. Qu'on peut considérer comme étant amateur, hein. Je ne suis pas photographe, mais j'aime beaucoup, par nostalgie, garder un peu des images de mes voyages. Et au travers de ma peinture, j'y vois des moments de poésie dans ces voyages, dans ces moments de vie. Ça met aussi en avant des questions générationnelles. Je suis en contact avec un peu l'histoire aussi de ces régions que je découvre. Souvent, il y a des gens de ma famille ou il y a mes proches qui sont dans ces mêmes lieux que je côtoie, que je photographie. Donc ouais, c'est un peu une expérience de la vie, quoi. C'est essayer de s'ouvrir, de la curiosité... C'est une grande carte à découvrir, donc ouais, c'est tout ça mes voyages.
Du coup, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel?
Alors pour ma peinture, c'est de la peinture à l'huile. Donc ça, c'est très chouette aussi la peinture à l'huile. Avant, j'étais à l'acrylique, mais ça sèche vite et c'est de la peinture qui se dilue à l'eau, la peinture acrylique. Maintenant, à l'huile, c'est du coup d'où son nom. C'est de la peinture qui se dilue avec de l'huile de lin ou de la térébenthine aussi, mais ça donne mal à la tête, ça, donc j'évite de l'utiliser. Mais c'est de la peinture à l'huile avec des pinceaux. Et sinon, là, plus récemment, enfin, aussi avant, j'utilisais de la bombe de peinture comme pour des graphes. Ça me permettait, souvent j'utilisais de la bombe avec des pigments fluo, ça me permet d'avoir des aplats, des zones de couleur bien franches sur mes toiles. Et là, plus récemment, j'ai fait l'acquisition d'un aérographe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une sorte de petit stylo qui est relié à un compresseur d'air, et qui permet d'envoyer de l'air à haute pression. Et donc ça fait comme une bombe, mais beaucoup plus précis. Et donc je peux mettre de l'encre dedans, et ça me permet de... On utilise ça pour faire de la peinture de miniature. Vous connaissez les Warhammer ou les choses comme ça, toutes les petites figurines, on peut les peindre avec ça, mais aussi on peut peindre des toiles avec. Et donc moi, je peins mes toiles avec ça, et ça fait des flous, ça permet de rajouter du dessin, ça permet de trouver des nouvelles manières de représenter les choses, ça enrichit un peu la manière dont on va observer un peu ma peinture. J'essaye que les gens s'ennuie pas devant ma peinture, et du coup ça passe par avoir une diversité de gestes, de techniques aussi sur la toile. Pardon. Et peut-être si je peux rajouter, pour les tapis, c'est du tufting. C'est un peu à la mode en ce moment. Et donc le tufting, c'est une machine qui vient de l'industrie, et c'est une machine qui ressemble un peu à une perceuse et qui permet de broder mécaniquement. Donc c'est trop cool, c'est avec de la laine, ça permet de créer ses tapis soi-même à la maison, et là on en voit beaucoup sur les réseaux, ça se popularise, c'est un peu le nouveau do it yourself.
Combien de temps vous faut-il pour réaliser une œuvre ?
Alors en peinture, ça peut aller de quelques heures à un mois. En tapis, c'est une semaine pour un tapis de 1m50 sur 1m50. À peu près une semaine.
Comment vous vous sentez pendant que vous faites l'œuvre ? Pendant que vous dessinez ou faites du tufting ?
Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent, parce que ça peut être de la joie, mais il y a beaucoup de frustration aussi, parce qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on aimerait obtenir comme résultat. Donc c'est beaucoup de réflexion aussi. Donc je me pose souvent devant ma toile et je me creuse la tête à dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment, par quel biais y arriver ? C'est beaucoup de choses que j'efface, que je recommence. C'est aussi une manière qui est assez folle, et que je pense que je ressentais déjà quand j'étais enfant. Quand je parle de méditation, je peux passer 4-5 heures debout face à ma peinture ou face à mon tissu que je suis en train de tufter, et oublier que il faut que je boive, il faut que je mange, et du coup je sors un peu, quand j'arrête de travailler, je sors un peu de cet état de stase, et j'ai un peu la tête qui tourne, je vois au ralenti, et là tout mon corps se réveille, et hop, je peux retourner un peu dans la réalité, quoi. Mais c'est super intéressant de trouver ces états comme ça, mentaux aussi, dans lesquels on peut se mettre. C'est important, c'est chouette.
Pourquoi utilisez-vous la tapisserie comme pratique dans vos œuvres ?
Alors, la tapisserie, ça arrivait, pour être précis, en 2022. J'ai découvert cette technique grâce à ma compagne, qui, elle aussi, est artiste et qui travaille le tissu. Et donc, on a fait l'acquisition d'une tufteuse parce qu'on avait envie de tester. Et au même moment, j'étais encore médiateur au FRAC. Et le FRAC m'a proposé de faire une résidence avec la petite enfance. C'est le programme Babil, et il cherchait un artiste qui soit à l'aise avec ce public-là, qui n'est pas forcément évident. Et ils ont bien vu que pendant mes visites, j'étais très à l'aise et j'encadrais déjà des tout-petits et tout ça. Et de mon expérience personnelle, ma mère est auxiliaire, assistante maternelle, donc je suis très à l'aise avec la petite enfance. Et donc par ce biais-là, par cette résidence, j'ai commencé à faire du coup du dessin et de la peinture avec des tout-petits. Et cette technique-là était trop cool, le tufting, parce que ça me permet de aller un petit peu plus loin et de transformer, de valoriser un peu la créativité des enfants et de transformer leurs dessins, tous leurs choix, leurs gestes en tapis, et de faire une surface super accueillante et trop chouette. Donc le tufting, ça arrivait de cette manière-là, grâce d'une part à des échanges que j'ai avec mes proches, et avec la proposition de résidence que le FRAC m'a faite. Voilà.
Est-ce que vous créez selon vos émotions ?
Ouais, ça arrive. Je suis très cérébral quand même. Les émotions, elles arrivent pendant mes voyages, quand je décide de capturer telle ou telle image. Quand je travaille, c'est plus une réflexion, c'est plus essayer de comprendre ce que j'ai envie de raconter du monde, ce que l'image que je vais peindre va transmettre comme émotion aux gens qui vont la voir. Sinon, je suis pas dans. Si, peut-être que si, je peux. Je suis quand même traversé par des émotions. Je pense que sur un mois, il y a plein d'émotions qui peuvent se mélanger sur une même toile. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est quand je tuffe ou quand je peins et que je reprends mon travail le lendemain ou deux jours après. Et que j'écoute souvent de la musique ou j'écoute des podcasts. Et quand je retravaille à un endroit précis, ouais, j'ai un lien direct avec ce que j'écoutais au moment où je travaillais sur cette zone. Donc j'ai des flashbacks comme ça, d'émotions, de ressentis que j'ai ressentis il y a des jours avant. Donc c'est assez intéressant, c'est des choses que je questionne encore, que j'apprends un peu à étudier. Quoi.
Pourquoi ces paysages chelous?
C'est vrai qu'ils sont un peu louchins, ces paysages. Ils sont souvent, c'est la végétation qui est un peu louche, parce que la végétation, c'est très dense, il y a beaucoup de mouvements, ça vit, ça transpire, ça absorbe. Donc souvent, bah, si tu parles des paysages qu'il y a en plus à la médiathèque en ce moment, enfin du coup hier, il y a une végétation qui bouge un peu, et les couleurs que j'utilise aussi, ça transforme un petit peu l'image de base. On quitte la réalité, même si c'est figuratif, donc on reconnaît ce qui est peint. On met un pied dans l'onirique, un peu dans le monde du rêve, un peu. On rentre dans mes émotions aussi. Je pense que les couleurs que je choisis de peindre, elles viennent de ma sensibilité, et qu'elles peuvent se retrouver, un peu trouver écho dans la sensibilité des autres gens. Et j'aime bien voir un peu comment les personnes qui regardent mon travail, comment ils ressentent aussi, comment tu vois, toi tu trouves que les paysages sont bizarres, et moi ça m'intéresse de voir ce que tu y vois.
Juste avant de retrouver la deuxième partie avec toujours Émile Orange pour échanger, Amandine de la FRAC, et puis des élèves de l'école de Bémécourt qui auront travaillé avec Émile, je vous propose une courte pause musicale.
استغفر الله fait la mort. Rawa Taïgaré Manin, voilà la mort.
Tinari Wen avec le titre #Féro Allah.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et s'il fallait le rappeler, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril. Et le jeudi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Nous avons notre chroniqueuse préférée, So. Alors je dis notre chroniqueuse parce que Antoine, ce sera notre chroniqueur préféré. Oui. Je me permets. Qui est avec nous et qui ne pouvait s'empêcher de saisir cette thématique de la journée mondiale de l'autisme pour pouvoir chroniquer. Bonjour So.
Salut JC, salut tout le monde.
Alors régulièrement quand on échange ensemble, tu nous parles de cette lointaine contrée pour nous neurotypiques qui est l'Autistan. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur cette notion d'Autistan. On ne parle pas de troubles du spectre autistique, on ne parle pas de neuroatypisme. Avec toi, on parle régulièrement d'Autistan.
Oui, je préfère utiliser moi ce terme-là parce que c'est un peu comme un pays avec sa culture, son histoire et tous ses citoyens sont différents en fait. Donc ça prend vraiment ce prisme de chaque personne autiste est différente, mais il y a des socles communs, notamment sur les hypo ou les hypersensibilités, si on est plus ou moins sensible au bruit, à la température, à certaines matières. Ça c'est des curseurs en tout cas qui sont toujours interrogés dans l'autisme.
Est-ce que finalement on pourrait dire que l'autisme c'est comme les lunettes? On peut pas dire la lunette. Est-ce qu'on pourrait dire les lunettes comme on pourrait dire les autistes?
Les autismes, les personnes autistes, les troubles de l'autisme, puisque il y a quand même on parle de troubles neurodéveloppemental. Après, si ça a autant survécu aussi longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être qu'aussi qu'elle a des choses à en retirer. Autrement, la sélection naturelle aurait fait son œuvre. Donc oui, ça entraîne des difficultés, c'est pour ça qu'on parle de troubles, mais c'est un fonctionnement différent. Après, dans ce fonctionnement différent, les réglages, c'est comme pour n'importe quelle télévision ou système audio. En fait, on peut aller changer les réglages en fonction de ce qu'il y a. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais c'est vrai qu'on va retrouver des items où ces curseurs sont différents. Voilà, c'est en ça qu'il y a des points communs.
Tu l'évoquais, en autistan, la culture peut être différente. Dans notre culture, on pourrait se dire au bout d'un moment, tiens, pour bien t'accueillir, fais comme chez toi. C'est pas forcément comme ça qu'on fait en autistan.
Non, ça marche pas du tout. Fais comme chez toi, si je suis comme chez moi, je suis pas là. Donc ça peut pas fonctionner. Je suis forcément dans un état où il y a une forme d'inconfort en fait. Voilà, le confort c'est la bulle, c'est le chez soi, et encore en l'ayant aménagé et en s'y sentant bien, donc c'est même pas garanti. Donc non, ça marche pas du tout. Il y a des traductions par contre. Tu vois, il y a des choses qui peuvent permettre d'avoir cette phrase d'accueil qu'on entend chez les neurotypiques.
Alors du coup, qu'est-ce que je dis quand je reçois un autistanais? Ah mais je vais loin là, hein. Tant pis pour toi. Hein.
Non mais ça marche. C'est plutôt de faire des propositions en fait. Donc c'est dire, si tu veux tu peux t'asseoir sur le canapé, ça va être un peu plus mou, tu vas un peu plus t'enfoncer. L'assise elle est très très molle. Si t'as envie d'un peu plus de rigidité, c'est la chaise. Je vais te proposer un truc à boire, oui, non, et ensuite dénoncer ce qu'on a, mais en rappelant que rien ne sera dérangeant. Voilà, que si on le propose, c'est parce qu'on le veut bien. Donc voilà, il y a ce truc de les conventions sociales en fait sont pas tout à fait les mêmes. Alors des personnes autistes les ont apprises, mais celles qui font que nous on est bien. En fait, c'est un peu à l'inverse. Enfin, c'est pas l'invitation ne suffit pas. Il faut une précision. Voilà.
C'est-à-dire, si je veux être le plus invitant possible, je vais proposer
Je sais pas, est-ce que tu veux boire un café, un thé, tu dis stop quand tu veux. Il y a ce côté-là.
Ouais, il y a ce côté-là. Ça peut être bien de préciser parfois les marques. Ouais, ça paraît bête, mais proposer un contenant aussi. Est-ce que tu veux choisir ta tasse? Et souvent, à partir du moment où on aura choisi une tasse, bah, ça sera toujours la même quand on viendra chez toi. Donc, si tu nous reçois avec d'autres personnes, c'est de réserver cette tasse. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent être vues comme ah ouais, je suis vraiment accueilli, je suis vraiment compris et on me fait ma place. Même chose pour les assises, hein. La plupart du temps, si une personne autiste elle a choisi un endroit chez toi où elle va s'asseoir, il y a très peu de chances que ça déroge quoi. À moins qu'il y ait quelqu'un dessus et là tu vas voir que ça va tiquer. Ceux qui ont des petites passions animaux, bizarrement quand c'est un animal ça va pas déranger parce que l'intérêt spécifique, donc voilà, la passion prend le dessus, tu vois.
Si on veut aller un peu plus loin sur développer des connaissances autour des troubles du spectre autistique, il y a
le Centre Ressources Autisme Senneur, le CRANS donc pour l'acronyme, et donc ils sont situés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, c'est vraiment comme l'appelle, enfin comme le dit l'appellation, un centre ressources. Donc on y trouvera toutes les infos, énormément de professionnels, etc. Et puis après en local aussi, hein, dans le département de l'Eure, il y a quand même des choses qui se font et il y a des relais qui peuvent être faits. Hein. Donc voilà, il faut pas hésiter à se renseigner en local. Il y a des associations de parents par exemple ou les GEM-TSA, les groupes d'entraide mutuelle. Là aussi, c'est des grosses ressources. Quand même, pour le quotidien.
Le 2 avril, c'est donc la fête nationale de l'autisme.
Alors, je ne sais pas si c'est une fête, mais oui, je pense que parfois, ça mériterait d'être un peu plus célébré. Tu vois, je ne suis pas sûre qu'à Versailles, on aurait eu les mêmes jardins si le nôtre n'avait peut-être pas eu des petits traits, par exemple. Tu vois. On peut se poser des questions comme ça.
Merci, So. Et nous sommes toujours avec Émile Orange, rejoint par Amandine de la FRAC et puis cinq élèves de l'école de Bémécourt, à savoir Théophile, Léon, Anaïs, Gabriel et Doéline. Nous poursuivons, et moi aussi, comme disait Émile, il travaille avec des jeunes qui font des réalisations. Moi aussi, je travaille avec des jeunes, je sous-traite cette émission et pour le plus grand de mes plaisirs et sûrement celui des auditeurs, nous sommes toujours avec Maïlis et Mérola, et je crois que vous aviez d'autres questions à poser à Émile, et puis ça nous amènera aux enfants et notamment aussi à Amandine de la FRAC qui a accompagné du FRAC, pardon, elle me reprend, bah oui, non mais faut pas hésiter Amandine, du FRAC, bah oui c'est le fond en fait, hein. Bah oui, donc le FRAC et pas la FRAC parce qu'on dit pas la fond, ou alors c'est autre chose. Mérola et puis Maïlis, vous attaquez la partie un peu plus philosophie et pour en arriver au projet Le Refuge des Éclats, mais ça on y arrive dans un instant, mais vous vouliez aborder aussi cette partie philosophie artistique je crois, et je vous laisse la parole parce que toutes ces questions là viennent exclusivement de la réflexion de Maïlis et de Mérola, bien entendu je n'ai rien à voir avec cette interview, quand je vous dis que je sous-traite vraiment. Mesdames,
quelle est votre vision de l'art et est-ce que l'art c'est difficile?
Ma vision de l'art, c'est une vision qui est basée sur le partage, sur la transmission, la curiosité. C'est une grande histoire qui est passionnante, qui raconte celle de l'humanité. Donc c'est la nôtre, c'est celle de tout le monde. Et je trouve qu'elle est magique, elle est magnifique dans ce sens. Donc l'art, c'est commun. Et je suis content de pouvoir participer à ma petite échelle, à un cette histoire, en tout cas, ça me pousse à rencontrer des gens et à être moi à mon tour une petite passerelle pour les plus jeunes. Et
est-ce que l'art est difficile?
Et l'art, oui, ça peut l'être. Hein. Ça peut l'être, comme ça peut être très simple. Enfin, c'est tellement vaste l'art en général. Donc c'est ça peut être très compliqué d'en faire, d'en vivre. Ça peut être très simple au contraire d'en faire. Et, donc non, oui, c'est complexe l'art. Et en même temps, c'est tellement simple aussi, épanouissant aussi, ouais.
Est-ce que d'après vous, l'art favorise le vivre ensemble?
Ouais, je pense que ça renforce les liens, ouais, complètement.
Et dans toutes les formes d'art, hein, on voit la musique, le cinéma, la peinture, il y en a plein, le théâtre, les arts vivants. Enfin, c'est le vivre ensemble à 100%, quoi.
Mais comment, selon vous?
Ça rassemble les gens. Enfin, c'est comme je disais, c'est une manière d'échanger des choses, des sentiments, un point de vue sur le monde, sur soi, sur notre environnement, sur plein de choses, sur tous les points. Donc ouais, c'est des lieux de rencontre, de repli, pour se soigner aussi.
Justement, ce fameux vivre ensemble a été vécu sur le territoire du sud du département de l'Eure avec Émile Orange, car il a participé, il a mené un projet même qui s'appelait le Refuge des Éclats. Il a été accompagné de groupes pour réaliser ce projet. Je crois que vous aviez quelques questions qui vont nous faire la transition avec finalement le reste.
Pourquoi la quête du refuge? Pourquoi le Refuge des Éclats?
Alors, le Refuge des Éclats, c'est le premier titre du coup que j'ai trouvé pour la résidence. Et je voulais que cette résidence soit un moment où on apprenne à observer notre environnement, qu'on apprenne à expérimenter sur plein de supports. Et je voulais que ce soit un refuge, donc dans le sens un endroit à nous, un endroit un peu de, on va se dire. Pas de lutte ni de résistance, mais d'une certaine manière, en fait. C'est un endroit d'autonomie, d'émancipation, de vivre ensemble. Une cabane quand on est enfant, c'est tout ça à la fois. C'est un monde imaginaire, c'est un endroit qui nous appartient, c'est un lieu de rencontre avec nos amis. Donc c'est un refuge. Et aux éclats, c'est que déjà un refuge, c'est un endroit où qu'on accède, enfin qui rassemble les gens dans des moments peut-être qui peuvent être compliqués, ou les refuges en montagne et tout ça, c'est au milieu d'un paysage, d'un environnement. Et les éclats, c'est tous les petits fragments qui ont, enfin c'est toutes les personnes qui ont participé à la création de ce projet sont une forme d'éclat en soi, donc de lueur. C'est un peu une forme d'espoir, c'est aussi une manière de parler que on peut être plein de petits morceaux et une fois rassemblés, ben, ça donne un bel objet aussi. Un éclat, c'est quelque chose qui peut être cassé aussi. Enfin, c'est tout ça. Ouais. Et du coup, la quête du refuge, donc c'est l'exposition qui est venue en amont de cette résidence et qui a eu lieu du coup à la médiathèque Le Kiosque de Breteuil. Et donc la quête du refuge, c'est un peu la manière dont on amène l'accès à cette résidence. Donc c'est une exposition qui parle de mes travaux précédents, où du coup on y voit des tapis, on y voit des peintures. Les peintures que j'ai choisies, c'est un petit peu aussi des personnes qui sont dans un environnement sauvage, extérieur. C'est un peu ce chemin qui va nous mener jusqu'au au refuge.
Et justement, ce refuge des éclats, c'est un projet qui a été porté notamment par le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, je vais y arriver. Nous avons Amandine qui est avec nous. Voilà, Amandine, l'émission du FRAC et ce lien avec Émile Orange, quel est-il ?
Alors le Fonds Régional d'Art Contemporain de Normandie a pour mission depuis un peu plus de 40 ans maintenant de pouvoir diffuser les œuvres d'art des artistes sur l'ensemble de notre territoire en organisant des expositions, des médiations dans nos murs, dans les sites de Sotteville-lès-Rouen, mais aussi dans le site de Caen. Mais c'est aussi soutenir les artistes, les aider justement dans leur démarche artistique, les soutenir en leur achetant des œuvres, mais aussi en impulsant des rencontres avec les publics, ce qui peut amener à la fois des démarches artistiques revues, imaginées autrement, mais aussi les soutenir évidemment économiquement parlant. Donc le FRAC a pour mission d'accompagner les artistes sur le territoire en organisant des résidences d'artistes par exemple, et donc on a souhaité avec les écoles de Bémécourt et des Baux-de-Breteuil impulser un projet artistique. Ce sont des dispositifs qui sont soutenus par la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la culture, et par la DSDEN de l'Eure, qui est en fait l'éducation nationale, et ils permettent en fait de financer des résidences avec des artistes sur le territoire de la Normandie et même au niveau national. Et donc le FRAC accompagne en tant que partenaire culturel les artistes auprès d'un public cible, ici les écoles et les scolaires, pour pouvoir travailler ensemble et surtout co-construire ensemble un projet.
Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, vous êtes dit au FRAC, c'est avec Émile qu'on va bosser. Qu'est-ce qui fait ? Bah oui, on parle de Émile depuis tout à l'heure, Émile Orange, dont l'interview était très bien menée d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait qu'au FRAC, on se dit, bah tiens, c'est cet artiste-là qu'on va mettre en face de tel ou tel projet ?
Alors en fait, c'est pour ça qu'on est là en tant que partenaire culturel auprès des écoles. C'est aussi amener à la fois des jeunes artistes du territoire pour pouvoir amener la rencontre, créer cette rencontre autour de leur démarche, qu'ils puissent sensibiliser les publics. Émile avait déjà travaillé sur le territoire autour d'un projet intitulé Babil, qui intervenait auprès d'un très jeune public. Et quand je suis allée au Baux-de-Breteuil et à Bémécourt présenter des œuvres de la collection du FRAC, une année puis deux années, je me suis dit que ça valait le coup d'impulser un peu plus une résidence, un temps de résidence. Et c'est vrai qu'en faisant quelques recherches, en voyant comment Émile avait travaillé, qu'il était complètement accessible aussi à ce jeune public, parce que nous, notre intérêt, c'est d'amener auprès du public un artiste qui saura s'exprimer, qui saura expliquer les choses, même si on est là pour les accompagner, les former parfois. Parfois on travaille avec des publics en situation de handicap, donc on ne peut pas mettre n'importe quel artiste. Et là, Émile, par rapport au tufting, par rapport à sa démarche sur le paysage, nous apportait beaucoup. Les enseignantes ont aussi choisi Émile quelque part. J'avais plusieurs propositions d'artistes et c'est celui d'Émile qui est ressorti au moment de notre co-construction de projet.
Oh no, I'm losing sight of me. Who cares about what they wanna see? Let's drop this stupid fantasy. Oh yeah, I'm so done with trying to be. Oh yeah, I'm so done with trying to be. Oh yeah, I'm so done with trying to be cool.
It's Mr. Hey, hi, how you been? Can this be between you and me? Wish I wasn't shy, wish I didn't hide all the time and stare at my feet. Everybody trying to be cool, wish I knew how I would too. I wish I could fly to the moon, yeah. Tell me what you see when you look at me. Me and all my insecurities. It feel like 13 to 17.
I just gotta be who I'm gonna be.
Wish I wasn't so out of place. Wonder why I still hide my face. Thought I knew it all, then I got a taste. Mama said I need some time, I need some space.
Oh no, I'm losing sight of me. Who cares about what they wanna see? Let's drop this stupid fantasy. Oh yeah, I'm so done with trying to be cool.
People training just like the seasons. Love will fade away for no reason. Please just leave me be, ain't nothing to see. Feeling out of place, ain't no feeling. Ooh. Living every day like it ain't got no meaning. Just need something to believe in.
And I'm getting so damn tired of feeling down. Spending time thinking about people I don't give a fuck about. So done with thinking about.
Katrina, Be Cool, interprété par Lorenz et I Lo Jack.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HVR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Nous avons quelques jeunes gens avec nous, à savoir Théophile, Léon, Anaïs, Gabriel, Doéline. Ils sont entre le CE2 et le CM2 à l'école de Bémécourt. Ils sont à fond, là, ils sont en train de rigoler dans tous les sens. Mais je crois qu'au-delà de les faire rire, Maïlis et Mérola avaient aussi des questions à leur poser. Je vous propose que vous posiez votre première question.
Comment ça se passe avec Émile pendant les ateliers?
On fait des trucs, on jette de l'encre partout, on met des trucs et il y a des bouts de bois qui tombent sur des gens.
D'accord, bon. Anaïs, ça se passe comment? Toi, tu vois pareil?
Oui, c'est trop bien. On fait des tresses.
Et quoi d'autre?
Peinture, dessin. On a fait de la scie.
De la scie, vous avez découpé des trucs avec la scie, c'est ça?
Ouais, du bois.
D'accord. On a Gabriel. Gabriel, comment ça se passe quand vous travaillez avec Émile?
Franchement, ça se passe bien. Moi, j'aime bien ce qu'on fait. On fait de la peinture, de l'encre, des constructions aussi avec du bois. On a fait de l'encre sur tissu et sur bois, donc moi, franchement, ça me plaît.
C'est un truc qui te plaît bien, ça? Mm. Comment ça s'est passé pour toi, Théophile?
Bien.
Alors, et plus concrètement, vous avez fait quoi? Comment ça s'est déroulé?
On a dessiné sur le tissu pour faire pour que Emile fasse le tapis. On a commencé à faire une cabane. Et je me souviens plus.
D'accord, Dayline.
Moi j'ai bien aimé travailler en groupe, j'ai bien aimé tester des nouveaux trucs, des nouvelles techniques.
Vous avez fabriqué une cabane si j'ai bien compris?
Oui.
Ah bon, elle est comment? Je veux savoir comment elle est cette cabane.
Je sais pas encore, on n'a pas construit encore, on a le projet mais on n'a pas encore construit.
Ah d'accord, la cabane ça va arriver. Bah oui, on était sur le tufting avant, sur la tapisserie et après on verra comment on adapte la cabane à tout ça. Oui, tu voulais reprendre le micro, tu disais Gabriel?
On l'a commencé donc pour l'instant on n'a que le plancher qui est prêt.
Bon, c'est déjà pas mal.
Oui, bon. On peut déjà monter dessus.
Ah bah c'est déjà bien.
Oui.
Bon, il n'y a plus qu'à trouver un toit pour pas avoir trop de soleil et pas la pluie quoi.
Ouais.
Tu disais juste à côté Léon.
Mais par contre, ce qui n'est pas pratique, c'est que c'est des palettes. Donc ça, dès que tu es dessus, tu vas te prendre les pieds dedans et c'est fait mal. C'est pas du tout agréable.
Tout ça, c'est une technique à trouver pour finaliser la construction. Hein.
Mais oui.
Mais oui.
C'est trop dur.
Anaïs.
On a fait aussi du tissu pour mettre par-dessus.
Sur le toit, c'est ça, de la cabane?
On a fait un restaurant pour la cabane. On a fait un transat et on pouvait s'allonger dessus.
D'accord, ça c'est plutôt cool, s'allonger dans la cabane.
On a fait les tissus avec des pinceaux, les sprays, pipettes.
On a mis du sel sur les tissus pour faire des effets.
Ah, en mettant sur l'encre du sel, ça donne des effets alors?
Oui.
Et c'est ensuite, quoi comme genre d'effet?
Le sel, il absorbe l'encre et du coup, ça fait genre des petits contours. Et Emile, il a balayé avec des balais pour enlever le sel après et que ça fasse les effets.
Qu'est-ce que vous préférez faire avec Emile?
Avec Emile, moi j'ai préféré faire la cabane surtout. Enfin, commencer la cabane.
Gabriel?
Moi j'ai préféré, franchement, on a fait de la scie, on a fait du marteau, on a...
Ça c'est la partie bricole pure et dure quoi.
Oui, j'ai bien aimé la cabane mais j'ai bien aimé aussi l'encre. Oui, avec l'effet du gros sel, ça faisait comme étoile filante un peu. En plus c'était coloré. Et puis il y en a, ils s'amusaient, ils étaient bien, ils déchiraient les bandelettes, les bandes.
D'accord. Anaïs?
On a fait la balade, j'ai adoré.
Alors, dis-moi en plus, c'était quoi cette balade?
Il nous a emmené, enfin c'était le premier jour, il nous a emmené pour...
Pour
se creuser l'imagination et dessiner dans nos petits carnets qu'il nous a donné. On a vu une maison hantée, des chevaux, un chien à trois pattes.
Mais il vous emmenait où? Il vous emmenait dans ses rêves, il vous emmenait dans ses tableaux, il vous emmenait où?
Dans la nature.
Dans la nature, vous avez trouvé tout ça. Et ben voilà. Léon, qu'est-ce que t'as préféré toi?
Il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées. La promenade, je trouve que la maison n'était pas hantée, elle était juste abandonnée.
Ah mais chacun y verra ce qu'il peut y voir justement. Tout l'intérêt de ce regard artistique.
Et surtout, on a vu beaucoup de chiens. C'est ça qui était bien dans la promenade. Et les petits carnets qu'il nous avait donnés, il nous a donné des tampons avec marqué orange.
Ah, c'est comme Émile Orange, quoi.
Et du coup, on a sa carte de visite dessus pour voir ses œuvres.
Ok, et toi, Daylene, qu'est-ce que tu as préféré dans ce... Qu'est-ce que tu as préféré faire?
Bah, moi, c'était apprendre et partager.
Qu'est-ce qu'on se raconte dans une cabane?
On peut se raconter des histoires, on peut lire,
on peut se dire des secrets, lire, oui, aussi. On peut faire la sieste, parce que moi, j'ai déjà testé la sieste et c'était plutôt confortable.
Ah, cool. Théophile, qu'est-ce qu'on fait dans la cabane?
On peut jouer à des jeux. On peut faire semblant de voler des trucs.
Bah oui, on peut carrément. Qu'est-ce qui se passe dans une cabane?
On peut déjà parler du projet. On pouvait reparler de ce qui s'est passé. On peut dessiner, peindre, parler... Et juste dans la cabane.
Bah voilà, et ça c'est plutôt pas mal. Gabriel, tu voulais rajouter quelque chose?
Nous aussi, avec la maîtresse, on a fait un carnet de bord. Donc, chaque jour, on mettait des mots qui racontent ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple. Par exemple, hier, on a fait ça. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, sur de grandes affiches pour l'exposition, on va faire des textes qui vont raconter les 2 semaines passées avec Émile.
Ah, cool. On pourra aller voir ça ou ça reste dans la classe?
Non, c'est le 30 avril au Beau de Breteuil, à la salle des fêtes.
Oui, dis-moi Théophile.
J'ai une blague sur Émile. En fait, on peut dire une orange, 10 oranges, 100 oranges et 1000 oranges.
Eh ben oui, on peut dire tout ça. Effectivement, merci beaucoup Théophile pour ce trait. Ah ben non, elle est bien, elle est parfaite. Mérola, je crois que tu avais une question pour Amandine, c'est ça?
Où est-ce qu'elles sont ces cabanes?
Sous le préau, dans la cour de récréation, à Bémécourt. Et au Beau, c'est...
Bah, demande à Émile si tu sais pas où c'est.
Sous le préau aussi.
C'est sous le préau aussi. Voilà, Émile nous le confirme que les cabanes sont sous le préau.
Et qu'est-ce qu'elles vont devenir ces cabanes?
Alors on va les rassembler pour faire une seule et unique cabane qui va être exposée aussi le 30 avril.
Elle va être exposée où alors? Parce qu'au Beau de Breteuil, à Bémécourt.
À la salle des fêtes des Beaux de Breteuil.
À la salle des fêtes des Beaux de Breteuil sera exposée les cabanes, seront exposées les cabanes. Tu sais quand?
L'après-midi.
La date, j'ai
le 30 avril.
Le 30 avril après-midi à la salle des fêtes des Beaux de Breteuil. Théophile, tu voulais nous dire?
Et aussi, la cabane, ça va devenir une cabane.
Bah oui, en fait, c'est
parce
pas...
Parce qu'elle n'est pas encore finie, du coup, ça va devenir une cabane.
Ah bah ouais, non mais c'est... Alors ça paraît tellement évident, mais c'est essentiel, effectivement, Théophile. Cette cabane va devenir une cabane finie. Bah ouais, une méga cabane, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que nous avions des élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école de Bémécourt. Ils ont témoigné de ce travail avec Émile Orange. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais je souhaitais quand même conclure avec Émile. Émile, tu viens d'entendre Émile Orange, tu viens d'entendre les élèves qui s'exprimaient sur le travail qu'ils ont passé avec toi. En quelques mots, ça t'évoque quoi finalement ces retours des élèves, ces retours, on va dire, officiels, parce que tu en as eu plein durant les ateliers, des retours, mais ces retours un peu officiels, ça t'évoque quoi?
Bah, c'est de la joie, c'est cool de partager tout ça avec eux. On va reparler un peu de tout ce qui a été dit, on va faire des petits tours de parole pour qu'on comprenne bien tous les projets, mais je suis trop contente de faire ça avec eux. Je vois que ça leur fait plaisir, tous les jours ils sont motivés, tous les jours ils m'appellent Émile Orange, je leur dis non, juste Émile, c'est bien.
En tout cas, merci beaucoup Émile Orange d'avoir échangé avec nous. Merci à Théophile, Léon, Anaïs, Gabriel et Deyline d'avoir échangé avec nous. Merci à Amandine Dufrac également d'avoir répondu à nos questions. Moi, je remercie très particulièrement Maëlys et Merola qui ont été mes sous-traitantes de la question, qui ont été nos journalistes durant cette émission. Merci beaucoup pour le travail de qualité réalisé. Merci à François aussi, notre complice de l'association du parc, de tous ces projets que nous réalisons tout au long de l'année. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cools.